Bon, commençons par faire un petit exercice d'imagination pour ceux qui nous écoutent. Imaginons un instant une intelligence artificielle qui, en fait, ne ressemble pas du tout à une banale boîte de texte figée sur un écran.
Ouais, on oublie le vieux curseur qui clignote et qui attend gentiment qu'on tape au clavier, quoi.
C'est ça. Au lieu de ça, il faut visualiser un organisme presque vivant, une sorte de sphère lumineuse, flottante, qui semble littéralement respirer au rythme d'une voix humaine.
C'est une image assez poétique au final.
C'est très poétique. Mais le plus troublant dans cette image, le vrai bouleversement, c'est que cette entité vit intégralement, physiquement, à l'intérieur de l'appareil local. Genre aucun serveur distant, aucun cloud tentaculaire, zéro aspiration secrète de données personnelles vers des méga-centres de traitement.
Et c'est un renversement total de la tendance actuelle, en fait. Depuis des années, l'industrie nous habitue à ce que l'intelligence soit distante. On considère presque comme acquis qu'une requête un peu complexe a forcément besoin d'un data center géant.
Ouais, c'est le modèle dominant, c'est sûr.
Bah oui. Et ramener cette puissance de calcul en local, encapsuler un grand modèle de langage directement dans un téléphone qu'on tient dans la main, c'est carrément aller à contre-courant. C'est un choc culturel et architectural.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Notre exploration d'aujourd'hui est une plongée au cœur de ce qu'on appelle l'écosystème Orba, qui a été créé par Alex Concept. C'est une suite logicielle d'assistants personnels, souverains, cognitifs et multimodaux.
Exactement. Et le matériel qu'on a épluché pour ça est assez incroyable. On a des rapports d'audit technique d'une précision chirurgicale qui ont d'ailleurs été générés par une autre IA nommée Antigravity.
On a aussi les manifestes architectures, que ce soit pour les versions mobiles, bureaux et web, sans oublier les schémas visuels de cette fameuse interface. L'objectif de notre plongée, c'est vraiment de comprendre comment cet écosystème réussit ce tour de force. Comment on fait tourner des modèles d'IA complexes localement, tout en gardant une interface fluide et une sécurité infaillible.
Ben c'est parce que l'objectif n'est pas seulement technique, tu vois. C'est un vrai changement de paradigme. La proposition de valeur d'Orba, c'est la souveraineté numérique absolue, ce qu'ils appellent le Zero Trust et Zero Cloud.
Donc je n'ai pas à faire confiance à un géant de la tech, puisque mes données ne titillent jamais mon appareil.
C'est le principe, ouais.
Pour comprendre comment ça marche en coulisses, je pense qu'il faut d'abord regarder comment ça se présente visuellement. Parce que, en fait, le design dicte toute l'architecture. Le système rejette complètement les interfaces graphiques habituelles. Il n'y a pas de menu, pas de bouton d'action.
Pas de barre de recherche en haut de l'écran, rien de tout ça.
Voilà. C'est ce qu'ils appellent l'approche Zero UI. Zéro interface utilisateur au sens classique. Tout passe par leur Orbasphere. C'est ce widget circulaire transparent, sans aucune bordure.
Et techniquement, les documents parlent d'une sphère de plasma, souvent rose ou magenta. Pour obtenir un rendu aussi organique, ils utilisent des shaders graphiques de très bas niveau.
Des shaders, c'est-à-dire.
C'est du code qui s'exécute directement sur la carte graphique, de l'AGSL sur Android et du WebGL sur ordinateur. Ça permet d'attaquer directement le processeur graphique pour peindre cette forme sans surcharger le processeur principal.
Ah, d'accord. Et c'est comme passer d'un tableau de bord d'avion ultra complexe avec plein de boutons partout à une simple méduse bioluminescente qui change de couleur selon son humeur. Parce que oui, ces couleurs ne sont pas là par hasard.
Ah ben non, pas du tout. C'est le reflet de ce que la documentation appelle le moteur cognitif à cinq états. C'est un peu le langage corporel de l'IA.
Du coup, comment ça se décline ces cinq états IA?
Ben d'abord, t'as l'état idle. C'est la veille calme. La sphère est indigo et rose. Ensuite, quand elle écoute, elle passe en état listening. Là, c'est un violet néon très vif.
Pour bien montrer que le micro est ouvert.
C'est ça. Après, il y a l'état thinking, un blanc pulsant. Ça, c'est quand le modèle d'intelligence artificielle fait ses calculs en local, ce qu'on appelle l'inférence.
D'accord. Et les deux derniers états?
Tu as l'état speaking, la sphère devient dorée ou or, et l'état analyzing, ancien, quand elle exécute un outil spécifique.
J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cet état speaking, l'état doré, parce que la documentation insiste sur la fluidité. C'est pas juste une animation qui se lance en boucle, mais comment cette simplicité visuelle cache-t-elle une complexité technique aussi redoutable?
Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la synchronisation. Le système calcule en temps réel ce qu'on appelle la valeur RMS pour Root Mean Square.
En gros, c'est la puissance du son, c'est ça?
Est directement injecté dans le shader graphique pour moduler la distorsion de la sphère.
Attends, vraiment? Donc chaque variation de la voix déforme la sphère instantanément?
Instantanément. Si l'IA parle plus fort, la sphère pulse plus fort. La voix sculpte la matière visuelle en temps réel. C'est ça qui donne cette impression d'avoir affaire à un organisme vivant.
C'est hyper malin. Avoir une belle sphère lumineuse ultra réactive sur un gros ordinateur branché sur le secteur, bon, c'est une chose, mais l'écosystème propose une version mobile, Orba OS Mobile Edition. Comment on fait rentrer un cerveau pareil dans une poche avec les contraintes d'un smartphone?
Ça, c'est le gros tour de force. Ils utilisent le modèle Google Gemma dans sa version 2 bits i. C'est un modèle à 2 milliards de paramètres, mais ils ne le font pas tourner n'importe comment.
Ouais, parce que sinon, le téléphone fondrait, littéralement.
Clairement. Le secret, c'est qu'ils utilisent l'infrastructure Lite RT pour exécuter le modèle directement sur le NPU du téléphone.
Le NPU, c'est la puce dédiée à l'intelligence artificielle, on est d'accord?
Oui, le processeur neuronal. En déportant le calcul sur le NPU, on libère complètement le processeur principal du téléphone. Et surtout, tout reste confiné sur l'appareil pour une confidentialité absolue.
Il y a un autre truc de fou dans l'audit technique concernant la réactivité sur mobile. C'est le pipeline audio. Souvent avec les IA vocales, il y a ce blanc, cette seconde de latence qui brise complètement l'illusion d'une vraie conversation.
C'est le cauchemar des interfaces vocales, la latence.
Comment ils ont contourné ça?
Ils utilisent un moteur de synthèse vocale qui s'appelle Piper. Au lieu d'utiliser des couches logicielles Android classiques qui ralentissent tout, ce moteur est écrit en C++ natif, un langage ultra bas niveau, et il communique via une interface JNI.
Donc c'est un pont très direct avec le matériel.
Exact. Et le plus fou, c'est qu'au lieu de créer un fichier audio, genre un MP3 temporaire, le système génère un flux de données brutes du PCM qui est balancé
directement dans la mémoire vive.
Voilà, directement dans la RAM. Zéro écriture sur le disque, zéro fichier créé. C'est ce qui garantit une latence absolument nulle. Le son sort pendant que les mots sont encore en train d'être générés.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais soyons réalistes deux minutes. Une animation de plasma à 60 images par seconde, plus un modèle de 2 milliards de paramètres dans la RAM, plus un moteur natif C++, ça ne transforme pas le téléphone en radiateur, hein. Android est censé tuer ce genre d'application gourmande en arrière-plan, non?
Ben oui, le fameux low memory killer d'Android. Mais l'audit d'Antigravity montre une astuce géniale. L'application intègre une méthode native d'Android qui s'appelle OnTrim Memory.
C'est un signal d'alerte de la mémoire, je crois.
C'est ça. Quand le téléphone commence à manquer de mémoire, au lieu de se faire tuer brutalement par le système, l'application Orba écoute ce signal. Si l'application passe en arrière-plan, elle décharge proprement le gros modèle linguistique de la mémoire.
Ah, intelligent. Donc elle fait de la place d'elle-même.
Ouais, elle évite la sanction du système. Et dès que l'utilisateur rouvre l'application, hop, le modèle est rechargé. C'est très propre.
Et pour la batterie? Et le rendu graphique?
Bah c'est pareil. L'audit souligne, surtout pour les versions web et bureau, qu'ils ont ajouté une mise en veille automatique de la boucle d'animation. En gros, le request animation frame s'arrête totalement si la fenêtre n'est plus visible.
Donc l'empreinte graphique tombe à zéro. C'est vraiment l'élégance de l'optimisation. On a vu comment ça survit sur mobile, mais sur un ordinateur de bureau, la dynamique change. On a la Desktop Edition qui tourne sous Tauri version 2 et Face API. Et là, l'IA n'est plus juste là pour discuter. Elle devient un React Agent.
Un agent capable d'exécuter de vraies commandes sur le système d'exploitation.
Sauf que là, alerte rouge. Comment on empêche une intelligence artificielle locale de supprimer par erreur des dossiers de travail hyper importants? C'est exactement comme donner les clés de la maison à un majordome, très zélé, mais lui imposer un talkie-walkie. Genre, monsieur, je m'apprête à jeter ces documents, me donnez-vous le feu vert? Comment ça diffère des assistants qu'on connaît?
Eh bien, l'architecture d'Orba sépare les outils en deux catégories très strictes. T'as les outils dits safe, donc sûrs, par exemple lire un fichier ou ouvrir une application. Là, l'IA a une autonomie totale.
Et la deuxième catégorie, j'imagine que c'est là qu'on trouve les actions critiques.
Tout à fait. Les outils critical. Écrire un fichier, supprimer quelque chose ou même analyser l'écran. Et c'est là que le moteur à 5 états joue un rôle de sécurité. En cas d'action critique, la sphère passe immédiatement en cyan, l'état analyzing.
D'accord.
Et à ce moment précis, l'action est suspendue. Le système impose un canal d'approbation, ce qu'on appelle human in the loop, l'humain dans la boucle.
Donc, l'IA attend sagement, mais comment je valide, moi?
L'utilisateur reçoit une boîte de dialogue sur son écran. Mais le truc dingue, c'est que ça peut aussi se faire à distance, via WhatsApp ou Telegram, grâce à l'infrastructure Twilio. T'es pas devant ton PC, tu reçois un message. Tentative de suppression, oui, suivi de l'ID, ou non, suivi de l'ID.
C'est incroyable. Je réponds non 42 sur mon téléphone, et ça bloque l'action sur mon ordi à la maison.
Si on le relie cela au contexte plus large, on touche à un concept fondamental ici, la transparence des décisions. L'IA d'Orba n'est pas une boîte noire où tu envoies une requête et tu pries pour que le résultat soit bon.
Ouais, elle explique ce qu'elle fait.
Grâce au journal React, elle affiche ouvertement ses pensées internes avant d'agir. Elle dit « l'utilisateur veut ça, donc je pense utiliser tel outil ». C'est la base de la confiance numérique.
Un majordome hyper sécurier, c'est super. Mais l'audit mentionne une inspiration tirée du film R. Un vrai compagnon intelligent doit être proactif, pas juste attendre des ordres comme un vulgaire terminal. Comment on rend ça proactif en local ?
Ils ont ajouté un planificateur local. Un simple fichier nommé scheduledtasks.json qui est scruté par le système toutes les 15 secondes.
D'accord, un petit chronomètre interne en somme.
Voilà, et l'IA a le droit d'utiliser l'outil ScheduleTask pour programmer elle-même ses propres actions futures. Elle peut décider de te réveiller ou de te notifier en utilisant les notifications push natives de Windows, tu sais, les PowerShell Toast.
Ah oui, les petites bulles en bas à droite de l'écran. Mais du coup, en rendant l'IA plus autonome, ça a dû créer des bugs assez cocasses, non ?
Ah ben, l'audit d'Antigravity détaille un bug magnifique qui est maintenant résolu à 100%. La boucle de feedback infinie.
Qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Avant la correction, le micro de l'ordinateur restait ouvert en permanence. Du coup, l'IA captait sa propre voix sortant des haut-parleurs.
Oh mon Dieu, elle s'écoutait parler et elle se répondait à elle-même.
C'est ça, une hallucination totale. Pour corriger ça, ils ont modifié le système de reconnaissance vocale, VoSC. Maintenant, VoSC rejette systématiquement toute transcription si la sphère est dans l'état speaking, thinking ou analyzing. Elle devient sourde quand elle s'exprime.
C'est brillant et tellement logique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Ces corrections, le fait d'ignorer sa propre voix ou de s'adapter, c'est ce qui donne l'illusion de la conscience. D'ailleurs, ils ont aussi assoupli la compréhension sur mobile, non ?
Oui, le classifieur d'intention était un peu trop rigide. Ils ont intégré un routeur sémantique qui gère les synonymes et qui ignore les accents grâce à une normalisation Unicode.
Donc si je prononce mal un mot ou que j'utilise un synonyme, elle comprend l'idée générale sans bugger.
Exactement. Et cela soulève une question importante sur la perception de l'environnement par l'IA. Parce que l'audit s'attarde sur un outil récent, AnalyScreen, la vision multimodale.
Attends, elle peut voir mon écran ?
Ouais. En utilisant le Library PyPoint Pillow et le modèle Gemini 1.5, l'agent peut voir ton écran en temps réel. Il ne fait plus juste qu'écouter, il observe ce que tu fais pour anticiper tes besoins.
Évidemment, j'imagine que c'est soumis aux fameux guardrails et aux validations WhatsApp dont on a parlé.
Bien sûr, c'est classé comme action super critique.
Heureusement. Bon, si on résume un peu notre exploration, on a navigué à travers les 15 modules de l'écosystème unifié d'Orba. On part d'une application Android 100% hors ligne jusqu'à un widget WebGL transparent sur ordinateur. On a vu l'importance vitale des pipelines audio direct PCM pour la latence, la gestion maligne de la RAM sur mobile et ce système de sécurité via WhatsApp.
Tout ça pour donner vie à cette interface invisible, ce Zero UI.
C'est fascinant quand on y pense. Pour ceux qui nous écoutent, regardez les assistants vocaux grand public qu'on a tous chez nous aujourd'hui. Chaque fois qu'on leur parle, la voix part sur des serveurs distants pour être analysée. L'écosystème Orba, ça prouve qu'une vraie alternative existe.
Une intelligence visuellement organique, hyper pointue, et qui reste strictement enfermée dans votre poche ou sur votre bureau. La souveraineté des données, c'est pas une utopie pour dans 10 ans. C'est un problème d'architecture logicielle qui est littéralement déjà résolu ici.
C'est exactement le mot de la fin. Enfin, ça amène quand même une dernière pensée un peu vertigineuse. Si un compagnon numérique vit entièrement sur du matériel local, qu'il retient tout le contexte de votre vie dans une mémoire persistante et chiffrée, et qu'il commence à interagir de manière autonome de son propre chef, tout en expliquant ses choix, à quel moment ce système cesse-t-il d'être un simple outil logiciel pour devenir une véritable extension cognitive de la mémoire humaine ? C'est une réflexion assez fascinante à garder en tête lors de votre prochaine interaction avec une technologie soi-disant intelligente. Merci d'avoir partagé cette plongée avec nous.
Avec grand plaisir, c'était passionnant.